Nous sommes dans Pirkei Avot, Perek Sheni. On est à la fin de la 13e Mishnah. On est chez les 5 élèves de Rabbi Yochanan Zakkai. Et chacun des élèves a dit 3 choses. Donc, c'est un qui parle maintenant, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Netanel, l'élève de Rabbi Yochanan Zakkai. Les premières des choses, on a déjà étudié. Maintenant, on est là à la dernière. Alti racha, ne sois pas un racha, bifnei atzmecha, devant toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne sois pas un racha, on comprend, il ne faut pas être un racha. Ça, c'est pas un chidouche. Ça, c'est tout le monde, il sait. Mais lui, il ajoute, bifnei Atzmecha, ça veut dire quoi? Quand tu es seul, sois pas un rachat quand tu es seul. Parce que beaucoup de gens, ils disent, il faut pas être un rachat, il faut pas qu'on m'attrape. Mais quand on est seul, on peut se permettre. Mais quand tu es seul, ne sois pas un rachat. Marqué dans la Gemara, quand les élèves, ils ont demandé Rabbi Eliezer, donnez une bracha. Il dit, Hiratson, que vous craigniez Dieu comme vous craignez les hommes. Ils ont dit, c'est tout. Il dit, Halavai. Halavai, qu'on craigne Dieu comme on craigne les hommes. Quand les gens ils veulent fauter, ils se disent, aïe, il ne faut pas que les gens m'attrapent. La nature humaine fait qu'on a plus peur des gens que de Dieu. Alors, on peut traduire comme ça, c'est ça qu'il a dit à Bishima ben Netanel. On avait dit sa spécialité, c'était Yerechet, on avait dit. Sois pas un rachat quand tu es seul. Ou l'autre, Valti rachat, bifnei atzmecha, vis-à-vis de toi-même. Ne sois pas un rachat vis-à-vis de toi-même. Ne te prends pas pour un rachat. Ça veut dire quoi? Ne pense pas que tu es un rachat. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a du mal? Parce que la nature humaine veut que quand un homme y pense qu'il est rachat, alors il est proche de dire, bon, de toute façon, je suis rachat. Un peu un rachat plus, un peu un rachat moins, bon, c'est pas, ça change pas grand-chose. Alors on te dit, non, ça change, oui. Oui, non, mais de toute façon, je suis rachat. Si j'avais été pas rachat, ça va. Mais si je suis rachat, alors qu'est-ce que l'homme doit penser d'être tzaddik? Justement, je suis tzaddik. Alors il fallait dire autrement. Pense que tu es tzaddik. Il n'a pas dit qu'il pense que tu es tzaddik. Et pourquoi l'homme pense qu'il est tzaddik? Pourquoi peut-être qu'il me dit qu'il est tzaddik? Alors qu'est-ce que je dois penser de moi? Mais je suis tzaddik, je suis quoi? Je ne sais pas si je suis tzaddik. C'est quoi tzaddik? C'est plus de mitzvot que d'averot? C'est quoi une mitzvah? C'est quoi une avera? Est-ce que le manque de mitzvah, c'est une avera? Je sais si je suis tzaddik. Je ne sais pas. Je sais que je suis rachat. Je ne sais pas non plus. Alors, j'en sais rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je pense de moi? Maaseh Yain Gemara Kiddushin. L'olam yirei adam atzmo kilu chetzi chayav et chetzi zakai. Un homme, il doit toujours penser que je suis moitié zakai, moitié chayav. Asa mitzvah achat, ashrav, shichia atzmo, le kav zechut. Avera achat, oilo shichia atzmo, le kav chuva. Un homme, il doit penser toujours, je suis moitié-moitié. Si je fais une mitzvah, ça y est. Maintenant, je suis 50-50, j'ai fait une mitzvah, je suis 51-49, je suis tzaddik. Alors, ça vaut la peine de faire une mitzvah. Avec une mitzvah, je peux changer mon statut de moyen à tzaddik. Alors, ça vaut la peine. Et si on fait une avéra, je vais tomber de moyen à rachat. Ah, ça vaut pas la peine. Donc, ça veut dire que mon destin dépend de moitié-moitié. Le olam yirei adam et atzmo ki ilu chatzi zakai ve chatzi chayav. Imagine-toi. De quoi imagine-toi? Est-ce que je suis comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas où je suis, d'où tu sais. Mais j'ai le droit de regarder. On m'exhorte, rien t'exhorte. Imagine comme ça. Parce que quand tu t'imagines comme ça, donc le geste que tu fais est primordial. Le prochain geste. Et si je m'imagine que je suis déjà tzaddik, j'ai déjà 70% de tzaddik et 30% le contraire, alors peut-être tu ne seras pas tellement empressé de faire un mitzvah à 70, 71, ça ne change pas grand-chose. Ou un homme qui a 70, il va dire, bon, on va faire un avéra, il aura 69, c'est aussi bien, 69 aussi, ça passe. Les gens qui font le bac, ils sont sûrs qu'ils sont 15. Alors un effort un peu plus. Bon, à quoi ça sert? Les gens qui ont 5 pour le bac, oh, de toute façon, c'est à quoi ça sert de bosser? Mais ceux qui est autour du 10, ou ceux qui doivent faire après l'oral, il manque 20 points. Alors là, ça c'est excitant. Alors là, vraiment, il faut que je bosse. Alors donc, Chachamim, ils veulent qu'un homme s'imagine toujours qu'il est moitié-moitié. Et qu'est-ce qu'il se passe si maintenant il a fait une mitzvah? Il s'imagine que je suis 50-50. Donc, il choisit faire une mitzvah. Ça y est, maintenant j'ai 51-50. Qu'est-ce que je dois penser maintenant? 51-49. Qu'est-ce que je dois penser maintenant? L'olam yirei Adam et Tatsmo, qui le Hatzezakai. Je dois penser que je suis moitié-moitié. Mais comment je peux être moitié-moitié? Étant donné que maintenant je suis à 51. Non, mais c'est possible qu'en vérité tu n'étais pas à 50-50. Peut-être tu étais avant 51 rachat, 49 tzaddik. Et maintenant, cette mitzvah t'a fait, maintenant tu es 50-50, c'est possible. Alors maintenant, avec une mitzvah, tu seras tzaddik. Alors que je vais faire la mitzvah. Une fois que j'ai fait la mitzvah, je m'imagine quoi? Que maintenant j'ai 51, non? L'olam, il faut toujours penser 50-50. Alors quoi? Comment c'est possible? Ah, parce que peut-être avant, j'avais été à 48. Maintenant, j'ai fait ce mitzvah. Maintenant, je suis à 50. Alors quoi? Vous me tournez au bourrique, que chaque fois, je suis à 50-50? Non, on ne sait pas. Tu ne sais pas où tu es. Mais imagine-toi, comme si. Comme ça, mais si l'homme, il va dire, il fait un Mais je suis 50-50. Maintenant, il a choisi de faire un avéra. Alors, il est 51 rachat. Alors, qu'est-ce que tu as pensé maintenant de lui? Je suis 50-50. On l'a miré Adam Atzmo. Comment je peux être 50 étant donné que j'ai fait un avéra? Parce que peut-être avant, tu étais 51 sroute. Et avec ça, hein, tu es tombé maintenant à 50. Et s'il fait encore un avéra, il doit encore une fois penser 50-50. En vérité, on ne sait pas où on est, personne n'y sait. Et tu dois imaginer comme si maintenant je suis 50-50, comme ça, ton destin, il dépend maintenant d'une action. Et pas seulement soi-même. La grande dit, il doit penser que les gens de la ville aussi, parce qu'il y a un jugement sur une personne, il y a un jugement sur la ville, et un jugement pour le monde entier. Donc l'âme irait Adam et Tatsmokil ou Hatzizaï Kaïve Hatzizaïaf. Vikilu kol bnei iro Hatzizaïa Hatzizaïaf. C'est comme dans la ville, il y a moitié-moitié. Vechol haolam kulo Hatzizaïaf. C'est-à-dire, tu vas prendre les 7 milliards des gens au monde. Il y a un jugement sur le monde. Si tu penses que la majorité, c'est des Rechaïm, Shalom, alors tu vas dire que quoi? Bon, on ne peut pas sauver le monde. C'est faux. Peut-être maintenant le monde est 50-50. Et toi, tu fais une mitzvah. Toi, tu es moitié-moitié. Les gens de la ville sont moitié-moitié. Le monde entier est moitié-moitié. Tu fais une mitzvah. Donc toi, tu es rentré dans tzaddik. Mais les gens de la ville sont devenus tzaddik. Ou mais le monde entier, avec une mitzvah, tu peux influencer le monde entier, maintenant le Tzatzurut. Une avéra, le contraire. Donc le destin de l'humanité est dans mes mains. Un juif doit penser que le destin de l'humanité et dans sa main maintenant, à chaque instant de sa vie. Maintenant, c'est moi qui décide pour le monde de faire pencher de moitié moitié à tzaddik. Comme ça, c'est la chashivut que non, mais là, la vérité est que même si le monde aujourd'hui est 70-30, 70 tzaddik, 70 tzaddik et 71, en vérité, c'est aussi pas du tout la même chose. Le monde à 71 tzaddik, c'est beaucoup plus que 70. Mais seulement les gens, ils n'ont pas l'assentiment que ça change grand-chose, 70, 71, 71, 72. Les gens, ils pensent que c'est pas si important. Alors d'accord, alors imagine-toi que ces 50-50 là, ça change. Ah, entre tzaddik et rachat, il y a une grande différence. Et quand c'est pile-pile, alors là, ça se joue. Ah, c'est une grande différence. Sache que chaque seconde, le destin de l'humanité est dans ta main. Comme ça, un juif, il doit penser. Maintenant, il ne faut pas penser que tu es rachat, baltihi, rachat bifne atzmecha. Ne t'imagine pas que tu es rachat. Si tu imagines que tu es rachat, tu dis, bon, ça ne change pas. De toute façon, je suis rachat. Comment je vais m'en sortir? Mais si c'est vrai qu'il est rachat, peut-être il n'est pas si rachat. Comment un homme rachat qui a fait d'Averroth. Mais tu sais pas. Peut-être Hachem, il sait que tu as des excuses. Peut-être même que tu as des excuses. Peut-être c'est moins grave. Peut-être tu as vu des mitzvot. De toute façon, les gens ne sont pas subjectifs sur eux-mêmes. Ils ne sont pas subjectifs. Le calcul d'Hachem, il est beaucoup plus profond, beaucoup plus nuancé de ce que nous pensons. On a beaucoup de fois, on pense, c'est sûr qu'on est tzaddik. Tu sais pas. Je sais pas où on est. Tu penses que tu es tzaddik, c'est pas si sûr. Il pense qu'il est rachat, c'est pas si sûr. Hachem, il a beaucoup de calculs que, comment il, ce que l'homme, il a reçu, ce qu'il a pu faire, ce qu'il fait, c'est très, très, très profond. Le jugement d'Hachem est très, très profond. Et on sait pas. Et donc, on ne sait pas, tu t'imagines que tu maintiens. Ne te considère pas comme rachat. Tu as toujours de bonne humeur avec ce que tu as fait. Tu as de bonne humeur. Maintenant, mathématiques, avec une mitzvah, tu peux pencher vers la tzidkout. Et un autre pshat, valti rachat bifnei atzmacha, ça veut dire bifnei atzmacha, quand tu es seul. Ne sois pas un rachat du fait d'être seul. C'est-à-dire, il faut pas se séparer de la communauté comme on a déjà avant. Il faut Il y a une kushya, il y a un ma'amar dans la Gemara Nida. Il est marqué, quand un homme, quand on naît, pendant la naissance, la neshama descend sur terre, on fait jurer la neshama. On sort pas comme ça du Gan Eden, on sort pas comme ça du Kisya Kavod, on descend sur terre. Faut d'abord signer un papier. Qu'est-ce qu'on signe, hein? Faut jurer. A jamais fait jurer la neshama. Tu jures que tu seras tzaddik et tu seras paracha. Jure. Je m'engage d'être tzaddik. Et je m'engage de pas être racha. Pourquoi il y a deux serments? D'abord un serment, tu seras tzaddik. Un deuxième serment, pas être racha. Ça veut dire quoi? Que si, Hasselom, tu n'accomplis pas ton serment d'être tzaddik, alors tu t'arrêtes au moyen, tu t'arrêtes à moitié-moitié. Mais tu jures que tu ne vas pas tomber en dessous du 50, tu ne seras pas rachat. Ça, c'est le premier serment. Le deuxième serment, dit la Gemara Nida, on le fait jurer. Afilo kol ha'olam kulo, omer alach hashata tzaddik, ata tei benecha k'rachat. Même si le monde entier va dire tu es tzaddik, ne tombe pas dans le panneau. Toi, tu dois être à tes yeux comme un rachat. Comme ça dit la Gemara. C'est une contradiction avec notre Mishnah. La Mishnah nous dit, Alti rachat bifnei atzmecha. Ne sois pas tzaddik pour, ne sois pas rachat à tes yeux. Et là-bas, on dit, même si le monde entier dit que tu es tzaddik, tu dois être à tes yeux comme un rachat. Alors il se contredit, il dit il ne faut pas être rachat. Alors, soit le chat, il est. Il y a des moments que oui. Normalement, il ne faut pas être à ses yeux, Rachar. Mais si le monde entier dit que tu es tzaddik, là, il y a un danger. Il y a le danger que quoi que tu vas tomber dans le panneau, tu vas croire à ce que les gens y disent. Là, quand il y a un danger que tu vas croire et un grand danger, alors là, pour équilibrer, va dans l'autre sens. Et pourquoi dans l'autre sens? On n'a qu'à dire, je suis moitié-moitié. Parce que si tu penses que tu es moitié-moitié, le monde entier dit d'être tzaddik. Tu dis, bon, alors je suis quelque chose entre moitié-moitié tzaddik. Tout le monde dit tzaddik. Moi, je pense que je suis moitié-moitié. À la fin, tu penseras tu es tzaddik. Et ça, c'est pas bon. Pour contredire le monde, il faut aller vers l'autre extrême. Où le pshat, il est, que c'est bizarre que tout le monde dit que tu es tzaddik. Ça, c'est bizarre. Comment ça se fait? Un homme que tout le monde dit sur lui qu'il est tzaddik, c'est pas normal. Comment ça se fait? Il n'y a personne qui dit qu'il est rachat. Ouh là là, ça peut être une piège, etc. Alors là, peut-être, il est tellement rachat que malheureusement, les tzara jouent un tour. Que tout le monde dit tzaddik pour l'endormir, pour le tromper. Là, l'homme, il est en danger. Et peut-être plus. Comment ça se fait que tout le monde dit tzaddik? C'est pas normal que tout le monde dit tzaddik. Peut-être, tu le joues trop grand, tu le joues trop bien, tu trompes le monde entier. Oh, il est grand celui-là. Ah, il a peut-être été un rachat. Tu as réussi à tromper le monde entier. Parce qu'un tzaddik n'arrive pas à tromper les gens. Tout le monde dit tu es tzaddik. Ça veut dire tu as vraiment un grand en tromperie. Alors peut-être tu es rachat. Mais le pshat pachout, il n'est pas ça. Quand on dit Ata tiei benecha, si le monde entier dit que tu es tzaddik, tu seras t'es sûr, Racha, ce n'est pas que tu dois décider que tu es Racha. Il ne faut pas décider que tu es Racha. Mais tu dois dire, il y a une éventualité. Peut-être, non, peut-être tout le monde se trompe. Oui, le monde peut se tromper sur une personne. Tout le monde pense qu'il est sadique, mais il n'est pas. On peut se tromper. Peut-être tu es Racha. Quand on dit ici dans la Mishnah, quand on dit dans la L'olam yehe Adam, yiret Adam et tzemo, ki ilu chatzezakai, v'chatzi chayav. Ça ne veut pas dire que l'homme, il doit être sûr qu'il est moitié-moitié. Pas tu ne peux pas être sûr. Pourquoi je suis sûr que je suis moitié-moitié? Mais imagine-toi, il s'agit d'une imagination. Le sentiment doit être comme si tu es moitié. Peut-être je suis tzaddik. Peut-être le contraire. Là-bas aussi, dans la Gemara, c'est. Si le monde entier dit que tu es tzaddik, Tiabenechagracha, prends ça comme une éventualité. Peut-être tu es racha. Alors, on va lire la prochaine Mishnah. Rabbi Elazar Omer. Ça, c'est maintenant le cinquième élève. C'est Rabbi Elazar Ben Arach. Qu'est-ce qu'on a dit sur Rabbi Elazar Ben Arach? Que Mayan et Mitgaber. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que Rabbi Yochanan Zakkai a dit sur lui? Rabbi Yochanan ben Zakkai haya moné shevachan. Ils disent leur qualité. Sur lui, il a dit que Mayan Hamid Gaber. C'est comme une source qui jaillit. Alors, quel est le but de Rabbi Yochanan Zakkai de déclarer la valeur de ses élèves? C'est-à-dire, un maître, il doit déclarer la valeur de ses élèves. Parce que ça leur donne du courage. Et ça leur aide à savoir où ils doivent exceller, où ils peuvent exceller, quelle est leur route. C'est-à-dire un homme qui a une pierre, une grosse pierre qui pèse 20 kilos, 10 kilos, il le met dans son sac à dos, et il porte, c'est lourd à porter. Il va marcher 20 km avec un sac de pierres, et si quelqu'un ouvre le sac, il dit, mais vos pierres, ce n'est pas des simples pierres, ce sont des diamants. Quoi? Ce sont des diamants. Eh bien, ce sera plus lourd, ce sera léger. Il marchera 10, 20 km, ça, il ne sentira rien. Parce qu'il porte des diamants. Un homme qui a des qualités, mais il n'est pas au courant, il ne sait pas les développer. Or, il faut développer ses qualités. Ces qualités qui se trouvent en théorie, eh bien, Eh bien, justement, il faut les développer. Donc, le maître, il a dit, tu as cette qualité. Il a dit, Rabbi Elazar ben Arach, tu sais que tu as une qualité de Mayan Amitgaber, c'est-à-dire une source qui jaillit d'eau, une source qui jaillit d'eau, que tu peux trouver, tu peux, si jamais quelque chose, une saleté il tombe dans l'eau, des fois il y a de l'eau qui est stagnante. La saleté il tombe dedans. Eh bien, après, ça se développe, les microbes. Mais une source qui jaillit à tout le temps, toute une nouvelle eau qui sort, alors ça va partir tout seul. Sache-toi, Rabbi Lazar ben Arach, tu as une qualité que même s'il y a la saleté qui tombe dedans, mais tu es une Mayan Amitgaber. Ça aide quoi, Rabbi Lazar ben Arach, de réussir un travail que justement réussi quand on est que Mayan Amitgaber? Tu dois dire des chidushim. Tu dois mechadesh des chidushim. Tiens, tu peux mechadesh. Quoi, l'élève ne le savait pas? Oui, il le sait. Mais si le maître le dit, c'est encore mieux. Vis-à-vis des autres élèves aussi, qu'ils sachent que cet homme-là, il peut mechadesh. Mais justement pour lui, c'est le plus important, c'est pour lui. Un homme, il a un fils, il doit lui dire ses qualités. Et avec ça, on déclenche une puissance, une dynamique de réussite. Alors, on va voir qu'est-ce que Rabbi Lazar Omer, Rabbi Lazar ben Arach, Heve shakud lilmot Torah, soit assidu, soit enfoncé, soit complètement dedans de l'étude de la Torah. Veda ma'ashatashiv l'apikores, et sache quoi répondre pour le renégat. Alors, apikores, c'est quoi apikores? C'est un mot, qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Il y en a qui disent que ça vient du mot hefker. Apikores, hefker. Hefker, délaissé. Il n'y a pas de patron. Pour dire, on est mafkir, il y a des gens qui ne prennent pas la Torah sérieuse. La Torah, pour eux, ce n'est pas sérieux. C'est hefker. Ou le monde est hefker. Le monde n'a pas de patron. Un athée, le monde n'a pas de patron. Ou le mot apikores vient du mot épicure. Il y avait des philosophes, il y avait les Aristos, les Socrates et les Platons, il y avait un qui s'appelait Monsieur Épicure. Et ce Épicure, quelle était sa, entre autres, il avait c'est plein de choses de philosophiques, mais le mot clé de Épicure a été ce monde. Fais-toi bien dans ce monde. L'autre monde, il faut surtout pas penser. Ça, c'est Monsieur Épicure qui écrit. Donc, ce mot-là, ce monde et pas l'autre monde, ça c'était aussi la Shita, ça c'était aussi les Tzedukim. Les Tzedukim, le Baitoussim, ils ne croyaient pas au monde futur. Là, ça correspondait à ce que disait Épicure. Là, ça m'a jetashiv la Apikores pour refuter ça. Mais le mot Apikores dans la Gemara, c'est devenu un mot qui englobe plus que ça. Ça, c'est une des choses contre la Torah que Épicure a dit. Mais tous les arguments contre la Torah, tous les gens qui essayent de détruire la Torah, qui essayent de poser des questions pour déstabiliser les gens, ou qui veulent prouver de la Torah elle-même qu'elle en vérité, elle voudrait dire autre chose, ils posent des questions sur la Torah pour prouver le contraire de ce qu'on connaît au nom de la Torah, ou des questions d'extérieur, ou des questions de l'intérieur. Alors, il y a toutes sortes de questions sur la Torah. Et Veda Mahashetashif, il faut savoir répondre. Ça veut dire, pour savoir répondre, il faut entendre les questions. Mais entendre les questions, ils sont bêtes, ils sont bidons. Et quand un homme, il étudie des choses bidons, il peut devenir bidon lui-même aussi. Alors, il est dit, Heve shakud lilmot Torah, étudie beaucoup de Torah. C'est dans la Torah, quand tu étudies la Torah, pour préparer les réponses. Et ça, c'est quelque chose de spécial pour Rabbi Elazar ben Arach. Justement, parce qu'il est Kemayan Amit Gaber, quand l'eau jaillit tout le temps d'une source propre, On étudie la Torah et tu puises dans la Torah tout le temps, même s'il tombe une bricole d'apicor saute, ça ne va pas le ébranler. C'est un microbe, il tombe dans une source d'eau, mais la source, elle jaillit, elle va partir, ça va partir après, ça ne va pas rester dedans. Ce qui n'a pas une source qui jaillit, il a sa Torah qu'il a, et on met dedans des arguments contre, il ne sait pas comment faire, ah, il est ébranlé. Il est déstabilisé, il sait plus quoi faire. Et ça arrive, Chassé Shalom, à beaucoup de gens. Beaucoup, beaucoup de gens. Beaucoup, beaucoup de juifs. Ils croient qu'ils connaissent la Torah. Ils n'ont pas bien étudié. Ils croient qu'ils connaissent le judaïsme, mais ils ne le connaissent pas profondément. Et ils le connaissent comme ils connaissent. Et le jour qu'ils vont rencontrer des gens qui vont poser des questions sur le judaïsme, sur la Torah, ils ne sauront pas quoi répondre. Eh bien, ils seront perturbés. Et cette perturbation, c'est ça qui fait que malheureusement, tellement beaucoup de gens, après, à ce jour, ils quittent la Torah. Ils ne savent pas comment lutter contre ça. Il faut savoir réfuter, et spécialement quand si on publie encore plus. Si on publie, quelqu'un, il demande le rabbin une question, question d'apicorsot, et le rabbin, il est là comme il ne sait pas quoi répondre. Alors les gens, ils disent, ah! Le rabbin ne sait pas quoi répondre. À quoi il a peut-être vrai? C'est vrai ce qu'il a dit? Quoi, il a gagné le débat? Oh, et les gens sont perturbés. Alors, Rabbi Yochanan ben Zakkai dit, toi, Rabbi Elazar ben Arach, tu es le Kemayan Mitgaber. Il faut que tu aies Mechadesh tout le temps. Comment réfuter? Meda, il faut savoir quoi répondre. Ça veut dire quoi, il faut savoir quoi répondre? Il faut savoir d'abord qui est le type en face. Qu'est-ce qui l'amène à poser cette question? Parce que la réponse n'est pas toujours la même. Il y a des gens qui posent des questions stupides. Il y a des gens qui posent des questions un peu plus intelligentes. Il y a des gens, en vérité, ils ne sont pas des apikorsim. C'est des gens amers. Il y a des gens qui racontent des paroles d'apikorsut. Mais ils ne sont pas des renégats. Ils sont simplement des gens amers, sont pauvres, et des gens rassemblés sont morts dans leur famille. Ils n'ont pas du kavod, ils sont complexés. Alors ils se rebellent. Alors ils se rebellent contre ceux qui sont en face d'eux. Et si en face d'eux, c'est des gens religieux, alors ils se rebellent contre eux. Ces gens-là, il faut répondre selon ce qu'eux, ils ont besoin. Des fois, ils n'ont pas besoin de grand-dieu. Explication. Ils ont besoin de toucher, empathie, lui donner du courage dans sa vie. Et il n'est plus apicoré, c'est fini. Après, il y a des autres apicorsim qui posent des questions parce qu'ils cherchent à réfuter la Torah. Maintenant, il y a toutes sortes d'apicorsim. Il n'y en a pas une sorte. L'Agma nous dit, il y a des apicorsim juifs, il y a des apicorsim goy. Et il y a une grande différence. L'apikores goy, peut-être que là, c'est quelqu'un, il voit le judaïsme, c'est bizarre à ses yeux, c'est pas logique, il pose une question, mais c'est pas logique. Ou il lit la Torah un peu, il croit trouver une contradiction, mais ça se contredit. Et on lui répond, il n'y a pas de contradiction. On donne un machal, on explique quelque chose. Ah oui, ça va, c'est logique, c'est bon. D'accord, je suis d'accord, monsieur. Et c'est fini. Après, la Gemara dit qu'il y a des apikorsim juifs. Apikorsim juifs qui, tout ce que tu diras, il dira toujours, il trouvera toujours quelque chose à dire. Toujours il peut contredire. Toujours il veut contredire. Pourquoi? Parce qu'il ne cherche pas que tu réponds. Il veut rester avec sa question. Parce que sa question est une réponse. Une réponse sur le fait qu'il ne veut pas pratiquer le judaïsme. On raconte sur Abraham Briska qu'il avait un élève, je ne sais pas si c'était lui ou si c'était quelqu'un d'autre, on ne sait pas les histoires sur quel rav ça a été, mais ça ne change pas. Il avait un élève, et l'élève, malheureusement, il est devenu ce qu'il est devenu. 30 années après, un jour, il a rencontré. Qu'est-ce que tu es devenu? Bon, complètement à côté de la plaque. Alors le rav, il a dit, pourquoi tu es devenu comme ça? Il dit, j'avais des questions. et on ne pouvait pas me répondre. Personne ne pouvait me répondre à mes questions. Alors, Prime, il a dit, personne ne pouvait te répondre à tes questions? Quoi, il n'y a personne qui peut répondre à tes questions? Non, personne n'a pu répondre à mes questions. Alors, Prime, il dit, tu sais que j'aurais pu répondre à tes questions. Mais ce qu'on ne peut pas, c'est de répondre à des réponses. Ça veut dire quoi? Si la question tu demandes, c'est parce qu'il y a quelque chose incompréhensible dans la Torah et c'est une question, alors je peux répondre. Mais si la question n'est pas une question, la question c'est une réponse. Il veut pas le judaïsme. Il ne le veut pas. Il veut faire des péchés. Et pour justifier sa contradiction, il a appris le judaïsme, mais maintenant il est rachat, il se sent mal. Alors, tchouva, il veut pas faire, mais il veut vivre tranquillement. Donc, pour réfuter, pour calmer sa mauvaise conscience, il se dit, en vérité, qui me dit que le judaïsme est vrai? D'ailleurs, j'ai un kushya, et il fabrique des questions, et il veut surtout pas qu'on lui réponde. Et si quelqu'un ose de lui répondre, hein, alors, il va fabriquer une autre question, parce qu'il veut rester avec la question. Parce qu'en vérité, tout ça, c'est une réponse. Pourquoi il n'est pas religieux avec cela? En la davar sof, il n'y a pas de fin. C'est ça l'expression de la Gemara qui dit, Dama shatashiv l'apikores, c'est pour un apikores goy. Mais un apikores juif, ne discute pas avec lui, tu perdras son temps. Et plus, il va devenir encore plus apikores. Parce qu'il va encore plus mettre la tête dedans pour réfuter. Pourquoi? Parce que si tu lui réponds sa question, tu l'as déstabilisé, et l'autre, il va dire, oh là là, il m'a déstabilisé, peut-être le judaïsme a raison, mais il veut rester rachat. Il va encore plus mettre la tête dedans pour se justifier. Il va fabriquer encore plus de questions. Il va se rebeller plus pour sa défense. Donc, plus que tu discutes avec lui, ça ne servira à rien. Pour le laisser, peut-être un jour, Shamirachem, vont arriver des événements que lui-même il va comprendre. Mais si toi tu veux lui réfuter, il fabrique déjà des anticorps, un vaccin contre ce que tu dis. Alors c'est difficile à enlever. Laisse-le. Mais en vérité, quand l'agman, on dit apikoré juif, il ne faut pas discuter. C'est pas avec toutes sortes d'apikoré, pas chaque juif. Il y a beaucoup de juifs apikorés, ils ont une dîme de goy apikorés. Ce n'est pas qu'ils ont vraiment des questions, c'est de l'ignorance. On leur a raconté des stupidités et ils sont tombés un peu comme ça dans la verrotte. Bah. Mais en vérité, ce n'est pas des vrais apikoïres à suivre. C'est comme le gars, il a des questions. Et si tu réponds, et tu peux le récupérer. Mais ça, il faut une grande chokhma. Il faut savoir ma, c'est ta chiffre. Ma, quoi? Faut comprendre la pécorité, c'est qu'est-ce qu'il veut et bien réfléchir comment lui répondre. Là, c'est cette histoire des pécorsoutes. C'est quelque chose qui traverse toute l'histoire juive. Mais seulement dans chaque génération, c'est un peu différent. On trouve dans la Gemara, Sha'al Min, Sha'al Nochri, Sha'al des goyim qui sont venus poser des questions à Rabbi Gamliel, à Rabbi Yochanan, combien? Il y a des centaines, des milliers de proverbes dans la Gemara. Poser des questions. Et des fois, les Chachamim, ils ont répondu avec un jeu de mots. Des fois, avec un pic. Des fois, ils ont mis à nu la voyouerie de ceux qui posaient la question, comme c'était un voyou, que les gens remarquent que c'est un type, un double. Il y a toutes sortes de façons. Toujours, ça a existé. Et après, il y a des discussions et des disputes. À l'époque de la Gemara, il y avait beaucoup de disputes entre les Chachamim et les Apikorsim, du Goyim, des Juifs. Et après la Gemara, combien il y avait dans chaque génération avec des chrétiens, avec des musulmans, il y avait des grands rabbanim qui étaient obligés de discuter avec eux. On les a obligés de discuter avec le Ramban à Barcelone, combien le Radak et combien les discussions à 1444 à Tortoz, Rabbi Yaakov, Yosef Albo, combien il s'est fait écrire. Beaucoup, beaucoup de discussions, il existait. À chaque époque, Absaadia Gaon a écrit le livre Emunat Vedeot, où il a mis clair tout le livre, il est pour réfuter tous les arguments des Karaïm et des Arabes et autres ignares. Et le Rambam, dans sa lettre, beaucoup de lettres, il a écrit le Rambam. Entre autres, il dit qu'il n'y avait pas un homme, un roi antisémite qui a essayé de faire du mal au peuple juif s'il n'était pas accompagné avec des arguments pour essayer de détruire la Torah. Mais ça ne marche pas, il dit le Rambam. Ils veulent tous détruire la Torah, mais elle ne marche pas. Hachem, il a donné une Torah qui est tellement costaud, qui est tellement basée. Les fondations de la Torah sont tellement fortes, on ne peut pas la casser. C'est bien ficelé de tous les côtés. Le Rajbo, il écrit une Tchouva entre un juif qui est devenu un arabe. Il s'est moqué de la Torah. Il a posé 70 000 questions sur le judaïsme. Le Rajbo, il répond un par un et voit quelle ignorance. C'est toujours basé sur des ignorances et les gens, ils essaient de tourner au bourrique. Mais dans le monde moderne, il y a quelque chose qui était beaucoup plus fort que de ce qui était avant. L'apicorsim dans l'Antiquité, il posait des questions sur un point, sur une idée, sur une mitzvah, à quoi ça sert? Ça sert à m'installer, à la chazir, mais c'est bizarre. D'accord. Ou d'autres questions. Mais après, c'est venu d'autres questions. Qui me dit que la Torah elle est vraie? Qui me dit que l'histoire elle est vraie? Ça n'existait pas à l'époque du Tanakh. L'époque de Shlomo HaMelech, personne il disait, et qui me dit que Moshe Rabbeinu a existé? Mais à l'époque, ils étaient toute l'histoire juive. Les juifs, ils ont vécu, c'est-à-dire quoi, Shlomo HaMelech, mais Moshe Rabbeinu. Mais tous les juifs, ils avaient les Yichus à l'époque de David HaMelech. Tous les juifs, ils avaient les Yichus depuis Avraham, Yisroel, Yaakov. Et les tribus de Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulun, Dan, chacun connaît son père. Il y avait des livres de Yuchsin, toute l'histoire, elle était transmise. Beaucoup plus que l'histoire française est transmise aux Français aussi. Les Français connaissent l'histoire de la France, les Anglais ils connaissent, les Russes ils connaissent, chaque pays connaît, mais les Juifs ils connaissent 10 fois encore plus. Toute l'histoire, ce n'est pas qu'une histoire. C'est une histoire vivante que toutes les Torah en mitzvot qu'on pratiquait tous les jours sont été transmises. À l'époque, on ne pouvait pas nier les faits. On posait des questions, les trucs. Mais après, dans la modernité, c'est devenu un chutzpah aujourd'hui. Et qui me dit, peut-être le peuple juif a inventé la Torah. Peut-être la Torah est venue au deuxième Beth Amikdash. Peut-être le deuxième Beth Amikdash, les rabbins, ils ont inventé une histoire rétroactivement. Tout ce que les juifs, ils savaient, comment la Torah, elle est arrivée dans leurs mains. Tout ça, on remet en question la folie pure. Ça, c'est la critique biblique, non? On va prouver de la Torah qu'elle était écrite après. Qu'est-ce qui n'était pas écrit, la critique biblique, c'est la plus grande, c'est le résumé de tout l'apicorsoute. Alors, si, il fallait répondre, Baruch HaShem, quand on étudie la Torah, on voit de la Torah elle-même que c'est faux. Il faut connaître l'histoire du peuple juif à l'intérieur, pas de l'extérieur. Il faut pas la falsifier. Il faut comprendre comment ça c'est. C'est impossible que c'était inventé, impossible que c'était falsifié. Ah, il y a des livres qui étaient écrits d'ici au 19e siècle, c'était la Grande Guerre. 18e, 19e siècle. Les rabbinim qui ont écrit des livres, le Malbim, le Ktav HaKabbalah de Rabbi Mecklenburg, beaucoup de livres. Il y avait un gaon en Lituanie, il s'appelait Rabbi Tsargaï Zegalibi il a quitté Lituanie, il est parti à Hambourg, il est parti à Francfort, il a lu tous les livres de la critique biblique et il a redescendu tous les trucs, tous les shekhar, toute la Amaratsu, toute l'ignorance que les Juifs eux-mêmes, ils ont fabriquée. En Allemagne, il y avait les Juifs et il y a toujours des Juifs aussi qui tombent dans ce bins. Et des fois, d'Afrique, les Juifs, ils veulent, toutes les Juifs qui voulaient se détacher de la Torah, qu'ils ont commencé à prendre la Torah pour une vieille truc, là, falsifié. Alors, des fois, avec un langage scientifique, historique, on essaye de détourner. Il fallait le réfuter. Rabbi Ezekiel, il a fait ça, Baruch HaShem. Il va de Rotrichonim et d'autres. Ça, c'est un grand sujet. Pour ça, il faut être l'ilm, et bien chaque l'ilm Torah. Il faut être entièrement dans la Torah. Il faut bien connaître comment s'est ficelée la Torah. Il était un grand olam, il connaissait tout. Babli Yerushalmi, Sifra Sifri, Tosefta, tout. Et il a remis les choses en place pour qu'on ait une vraie vision sur la chose, il faut chaque coude, il faut être entièrement dans la Torah. Et c'est quand on étudie Veda, Mashatashiv, en étudiant un homme qui se dit, moi, je vais répondre à Apicoïrès. Alors, quand il étudie, il trouve la réponse avant qu'il ait discuté avec Apicoïrès. Et Veshakoud l'ilmot Torah, Veda, à travers ce que tu étudies, Mashatashiv. Si demain Apicoïrès va poser cette kushya, tu prépares une réponse. Et on s'imagine les questions déjà. Et moi, bon, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'imaginer. C'est n'importe quel livre on ouvre, et ça y est, la picorcine, il parle, il crache, il... Sans se gêner. Alors, mais la réponse, il se trouve dans la Torah. Il se trouve dans la Torah. Des fois, il faut connaître encore une autre chose pour trouver où est. Ça, c'est donc Aniré Kerabelezar Ben Arach, il était le grand chef. Mais le Maaseh dans la Gemara, c'est marqué que le chef de ceux qui discutaient avec les Goyim à l'époque, c'était Rabbi Shua ben Hanania. Lui, c'était le chef discuteur, Rabbi Shua ben Hanania, Medabrene de Umte, le porte-parole du peuple juif, le porte-parole du judaïsme, c'est Rabbi Shua ben Hanania. Mais ici, c'est Rabbi Elazar ben Arach qui est celui qui a baigné dans les arguments. Alors, c'est possible que Rabbi Elazar ben Arach, il a transmis à Rabbi Shua ben Hanania. Peut-être Rabbi Shua ben Hanania, il avait un charme spécial, là, comme on nous raconte. Il était toujours à la cour royale, toujours. Souvent, il est parti aussi à Rome et aussi à Césarée. Il discutait, les goïms sont venus discuter, donc il a répondu. Peut-être lui, c'était ministre d'extérieur, il a dit. Peut-être Rabbi Elazar ben Arach, à l'intérieur, il a fabriqué les arguments. Ou lui-même aussi, il avait son monde avec qui il a répondu. Veda ma shatashiv l'apikores. Veda mifnemi ata amel. Et sache que devant qui tu te fatigues. Ça veut dire devant qui tu te fatigues. Alors, on peut learner ça, on peut comprendre. Hein? L'ifnemi, c'est Dieu. Sache que tu fais ça pour Dieu. C'est pour l'honneur de Dieu. Ça veut dire même qu'il est marqué que Rabbi Shua ben Hanania, ils sont venus chez lui. Et ils ont dit, maître, toi, tu sais répondre tellement bien, c'est merveilleux. Il a dit, c'est dommage que dans ma tête, j'ai ces arguments d'Apicorsim à la place de l'or et de l'argent et des diamants, on m'a mis la saleté dedans. C'est-à-dire, c'est dommage que j'étais obligé de m'occuper, j'aurais mieux que je ne me suis pas occupé. Alors, mais on est obligé de faire s'occuper, il faut que bien un qui refute. Donc, Veda, l'ifnimata amel. Il dit, Rabbi Elazar ben Arach, malgré que tu aies perdu du temps pour refuter ça, sache, c'est pour Dieu. Des fois, Dieu, il veut ça. Mais l'autre pshat, l'ifneimi ata amel, ça se rapporte sur la pécoïre, ce qu'on fasse. Sache, l'ifneimi, devant qui tu travailles. Il faut saisir qui c'est, ce qui en face. Pour savoir comment répondre. Il faut que la réponse sera adaptée. Et pas seulement ceux qui en face, mais qui sont les gens autour. Si c'est ton public, ou si quelqu'un il écrit en public, il faut refuter ce qu'il dit afin que les autres juifs ne rentrent pas dans un doute. L'ifnemi ata omel, parce qu'il y a des paroles que si tu le dis, pour certaines personnes, ils ne vont pas comprendre. Ça va les exciter encore plus. Donc il faut adapter la réponse sur ceux qui en face et aux juifs qui sont autour. Devant qui et dans les yeux, dans la main de qui va cette discussion et va tomber, afin qu'elle sera acceptée, qu'elle sera logique. Il y a des fois des paroles, on veut défendre le judaïsme, mais pas toujours c'est réussi. Des fois, il y a des gens qui veulent, ils croient que pour défendre le judaïsme, il faut faire sortir ce genre d'argument. Mais ça dépend qui est l'autre en face, quelle éducation il a. Est-ce que c'est un intello? Est-ce que c'est un intello, un vrai ou un faux intello? Est-ce que c'est un populaire? Est-ce que c'est un simple? Est-ce que c'est... Il faut savoir adapter qui, avec qui on a affaire. Il ne faut pas se tromper. L'ifneda, l'ifnemi, ata amel. Devant qui tu te fatigues. Et amel, le mot amal a beaucoup de sens. Amal, c'est la fatigue. Amal, ça veut dire aussi tordu. Amal, ben, j'ai marqué Hachem, il se fatiguait, ben, Amal Israël. Amal, c'est du shaker aussi, Amal. L'ichnémie atteint à mal. Tous ces à mal, ou la fatigue, ou le shaker, les choses tordues, devant qui tu fais ça, afin de savoir qu'est-ce qu'on dit. Il est né Haman, tu peux faire confiance, Baal Melachtecha, le patron de ton travail. Shishal il va te payer le salaire de ton travail. Ça veut dire quoi? Le patron, tu es un ouvrier, tu es un salarié, il te paye le salaire. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui paye. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a une grande récompense. Sache que toute la fatigue que tu fais, c'est une grande récompense parce que c'est Dieu qui paye, c'est pas un homme qui paye, c'est Dieu qui te paye. Mais aussi, qui est-ce qui paye? Parce que Dieu ne paye pas comme un patron. Ça veut dire, un patron, des fois, il dit, fais telle et telle chose. Oui. Si tu fais cette chose, tu as ton salaire. Maintenant, au milieu, l'ouvrier pense qu'en vérité, il faut faire autrement. Mais pas ce que le patron a dit. Et il dit, c'est beaucoup mieux que c'est le patron, il se trompait. Si je fais comme ça ne réussit pas, il faut que je fasse autrement. Alors l'ouvrier, il a fait autrement. La fin de la soirée, il arrive, le patron, il arrive. Ah, je suis pas content de vous. Je vous ai demandé d'installer cette cuisine de cette façon-là. Vous n'avez pas bien installé, je ne vous paye pas. Mais monsieur, on ne pouvait pas faire ce que vous avez voulu. Ce que vous avez voulu le gaz de ce côté, mais ça ne marche pas, c'est dangereux et truc. Écoutez, monsieur, je vous ai dit, faites comme ça, vous n'avez pas fait, je ne vous paye pas. Tu n'as pas fait ce qu'on te demandait. Alors l'ouvrier peut dire, bon, moi j'ai fait ce qu'il m'a demandé, il m'a demandé, il n'a qu'à mettre la tête dans le mur, c'est son problème. Je fais comme il a demandé, j'ai mon salaire et après ça marche. Après 6 mois, ça va tomber en panne, c'est son problème. Ça, c'est pour un patron humain. Mais da nemonubal c'est quoi? Devant qui tu travailles? Tu travailles devant Dieu et lui va te payer. Ça veut dire, des fois un homme y pense, Hachem, il m'a demandé de faire comme ça Torah mitzvot. Mais des fois, il y a quelque chose autre. Faut faire autrement. Et c'est pas, c'est un peu bizarre, mais des fois, quelqu'un il demande quelque chose de bizarre. Sache, Hachem, il comprend. Si toi, tu as compris qu'ici, il faut faire autrement de ce qui est le classique, Hachem, il va comprendre. Tu as fait ce qu'il fallait faire, il va te le payer. C'est Dieu qui paye. Tu peux lui faire confiance qu'il te paye. Prochaine Mishnah, Tetvav, Rabbi Tarfon Omer. Ayom Katser, le jour est court. Combien? 24 heures. Le travail est grand et immense. Ça veut dire quoi le jour? Et les ouvriers, par nature, ils sont paresseux. Le salaire est très grand. Et le balabai, il pousse, allez-y. Donc, qui c'est ici le patron? Qui est le balabai? C'est Hachem. De quoi la journée? La journée, c'est la vie. La vie est courte. Quand on est jeune, on pense que la vie est longue. Quand on a 10 ans, 20 ans, on se dit, on a tout le temps, on a toute la vie devant nous. Et après, d'un coup, le temps commence à accélérer, 30 ans, 40, 50, 60, 70 ans. Et chaque année, ça tourne plus vite. La montre tourne beaucoup plus vite. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en vérité, c'est court. C'est au début, tu crois, tu as 14 ans, maintenant tu as 15 ans. C'est un 15e de ta vie. Mais entre 60 et 71 ans, c'est un 60e de ta vie. Une année, c'est un 60e. C'est bon, c'est subjectif. Le temps, il va très vite. La journée est courte. Il ne faut pas perdre du temps. Il y a beaucoup de travail qu'Hachem lui demandait de faire. Et par nature, on est paresseux, donc il faut lutter contre la paresse. Il faut se dépêcher de ne pas être paresseux. Et il y a une grande récompense. On va là-bas, qu'Hachem, il veut, oui, bouge-toi. Alors, qui dit ces paroles? Rabbi Tarfon, qui c'est Rabbi Tarfon? Comment Rabbi Tarfon, il rentre ici? Alors, on avait dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait 5 élèves. Mais il dit, Rabbi Tarfon aussi est un élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Mais il ne compte pas parmi les premiers 5. Les 5, ça, c'était les plus, ceux qui étaient les plus proches de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Mais lui aussi, il a étudié chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Mais il a aussi étudié chez d'autres maîtres, pas chez Rabbi Yochanan Zakkaï, chez d'autres aussi, il a étudié. Donc, il ne compte pas parmi les cinq élèves, mais il était aussi un élève de lui. Et c'était la même génération. Rabbi Tarfon, c'était exactement la même génération que tous ces Chachamim. Rabbi Yeshua, c'est eux qui ont transporté Rabbi Yochanan Zakkaï pour sortir de Yerushalayim pendant le Korban. Rabbi Tarfon aussi, quand il était jeune, il était encore au Beth Amikdash, il était Kohen. Il montait au Beth Amikdash pour Birkat Kohanim. Rabbi Tarfon lui dit, moi je faisais Birkat Kohanim au Beth Amikdash encore. Il avait un oncle, et il racontait quand il a prêté l'oreille, comment son oncle, il dit le Shem, etc. Et après, il était après le Korban de Beth Amikdash, la même génération que Rabbi Lez, Rabbi Yeshua, c'était leur copain, mais il avait encore étudié chez d'autres maîtres. Donc on a mis Rabbi Tarfon ici à côté d'eux, parce que c'est la même génération. Hu Haya Omer. Lui, il disait aussi, qui c'est Rabbi Tarfon, Lo alecha hamlacha ligmor, tu n'es pas obligé de terminer le travail. Pourquoi il ajoute ça? Parce qu'en vérité, il a dit avant, hamlacha meruba, le travail est immense. Alors, quand on dit à quelqu'un, le travail est immense, et tu es un paresseux, alors l'homme, il va dire, par nature, je suis paresseux, et le travail est immense. Donc, je ne suis pas capable de le faire. Alors, peut-être, tu vas te décourager. Tu vas dire, ça sert à rien. Et je vais me mettre à étudier. Combien je peux étudier? Combien je vais faire? Une Maaseret et deux. Je vais faire quoi? 10 Maasechtot. Un tiers du chasse. Mais le Torah, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que ça. Alors, quoi? De toute façon, je ne peux pas. Alors, lui, il dit, Lo alecha, tu n'es pas obligé de finir le travail. Le travail est beaucoup, mais tu n'es pas obligé de finir. Ça veut dire quoi? Tu dois faire ce que tu peux faire, ce que tu es capable de faire. Faut pas perdre du temps, pas disperser tes forces et ta concentration. Tu n'es pas obligé de terminer. Ah, je suis pas obligé de terminer. Alors c'est bon, ça va. Alors ça, doucement, je vais aller lentement. Allez, dis non. Là, t'as ben choril. Tu n'es pas libre de ne pas s'occuper. Tu dois t'occuper de la Torah au maximum, mais tu n'es pas obligé de terminer. Si tu as étudié beaucoup de Torah, on te donnera beaucoup de récompenses. Plus que tu étudies, plus de récompenses que tu auras. Tu peux faire confiance à ceux qui te donnent le travail, qui va te payer la récompense de ton travail. Les Chorasema c'est exactement les mêmes paroles qu'a dit Rabbi Eliezer ben Arach dans la Mishnah avant, Yudalet. Yudalet. Rabbi Eliezer ben Arach, il a dit, Venemanu bal melachtecha, et si Rabbi Tarfon dit la même chose, Venemanu bal melachtecha, exactement la même parole. Bon. Ce n'est pas tellement une question. En effet, Rabbi Eliezer ben Arach, il a répété ça toute sa vie à ses élèves. Rabbi Tarfon aussi, il a répété ça toute sa vie à ses élèves. Ça, ce n'est pas étonnant. Seulement, la question, elle est pourquoi, dans Pirkei Avot, on nous rapporte ça, si c'est le même Mahamar, si c'est la même parole. Pourquoi, Rabbi, pourquoi les Chachmei HaMishnah, ils nous ont apporté la même parabole deux fois? Ça ne suffit pas de le dire une fois. Peut-être parce que c'est très important à savoir. Parce qu'à leur époque, les Sadducéens, c'est eux, c'est casse-pieds. Ils disaient, il n'y a pas d'Olam Haba. Ils essayaient de décourager les Juifs. C'était pendant le Korban du Beth Amikdash et les Romains, ils ne croyaient pas en Dieu. Ils ne croyaient pas en Olam Haba. Ils disaient aux Juifs, abandonnez le judaïsme. À quoi ça vous sert votre religion? Mais il n'y aura pas d'Olam Haba, ne croyez pas. Et ces Sadduciens, ils luttaient pour leurs idées tordues. Donc il fallait lutter contre eux. Fais confiance, il va vite te payer. Oui, mais pourquoi le Tanné, il me dit deux fois? Alors c'est possible qu'il parle en vérité un petit peu un différent travail. Ici, Rabbi Tarfon, il parle de l'étude de la Torah. Imlamadet Torah harbe. Not Harbe, il encourage les gens d'étudier beaucoup. Et la récompense, c'est pour l'étude. Ici, Rabbi Eliezer ben Arach, il a aussi dit avant, Heveshakut l'ilmot Torah. Mais il a inséré après dans ma certificative la Picores. Il faut que l'étude aussi sera pour répondre à Picores. Donc, c'est encore une deuxième étude. Il y a l'étude de la Torah elle-même. La vérité de la Torah sans les questions, sans tordre la Torah elle-même. La Torah elle-même. Rabbi Tarfon, il parle de la Torah elle-même. Étudie la Torah, connais la Torah. Plus que tu étudies, plus de récompenses tu as. Et Dieu va te récompenser. Rabbi Elazar ben Arachi, il a ajouté une autre chose que dans la Torah, toi, tu dois trouver ce qui peut trouver, ce qui doit répondre. Eh bien, il doit s'occuper encore d'une autre partie de la Torah. Peut-être cette deuxième partie, peut-être on n'a pas tellement de récompenses. Pour ça aussi, le dîner, pour la terre, même que ce n'est pas vraiment la Torah. C'est réfuter les arguments, mais comme le peuple juif a besoin, et parce que l'émouna du peuple juif dépend à savoir que la Torah elle est vraie, que chaque chose de la Torah elle est vraie, pour faire briller chaque chose de la Torah pour que les arguments des menteurs tombent. Donc sur ça aussi, tu peux faire confiance que Dieu aussi va te payer, même que c'est un autre sort de Torah. Après Rabbi Tarfon à la fin, Veda, Shematan Secharan Shel Tzadikim Latid Lavo, sache que la récompense des Tzadikim, c'est dans le monde futur. Donc ça, c'est aussi contre les Sadduciens et contre tous ces gens découragés qui se disent, on vit des événements et on ne voit pas que le Tzadik est le récompensé. On aurait bien voulu voir que le Tzadik sera récompensé. Mais pas toujours on le voit. Des fois, on ne voit pas que le Tzadik est. Des fois, on ne voit pas que le Tzadik est protégé. Des fois, il y avait Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, et d'autres Rabbi Chutzpah Hametourgeman. Il y avait les Asar Hurgemal Chut pendant cette époque, Rabbi Akiva. Bon, Rabbi Tarfon n'a pas vu la mort de Rabbi Akiva, Rabbi Akiva il est niftar plus tard. Mais il a vu Rabbi Chutzpah Hametourgeman, ce qui était le chef qui gérait la Yeshiva de Yavne, le Meturgeman, le porte-parole de la Yeshiva de Yavne, Rabbi Chutzpah Hametourgeman. Et quand il était assassiné, quand le Khazir, il a traîné sa langue dans la rue, et Elisha Ben Avouya, il a perdu la tête quand il a vu ça. Donc les gens, ils posaient les questions, entre autres, Elisha Ben Avouya, où est le Sahar? Mais où est le Sahar que la Torah a promis? Varachta Yamim, le Yamim, comme il est dit, Elisha Ben Avouya, j'ai vu un homme, son père, il a dit, amène-moi des pigeons à manger. Et le fils, il a pris une échelle, il est monté, il a renvoyé la mère, et il a pris le petit, il l'a amené chez son père, mais quand il est descendu l'échelle, il est tombé, et il a quitté le monde. Et bien, Elisha ben Avouya, il a dit, attends, pour Kibbouda Va'em, la Torah nous a dit, Varachta Yamim, le man yitavlach Varachta Yamim, tu auras une longue vie. Et puis, Shiloh HaKen, la Torah lui dit, Varachta Yamim, il a un double Varachta Yamim. Et sa vie était dans une seconde terminée. Et ça, c'était une des choses qui ont fait tourner la tête à Elisha ben Avouya, malheureusement. Comme dit le Gemara, Elisha ben Avouya avait un petit-fils qui s'appelait Rabbi Yaakov. Elisha ben Avouya, il aurait interprété correctement Barachta Yamim. Barachta Yamim, ça veut dire une longue vie. Une longue vie, ça veut dire une vie qui est longue, pas longue, qui est courte. Parce que, comment il dit Rabbi Tarfon, Hayom, le jour, il est court. Dans ce monde, le jour, il est court. Quand la Torah a dit Varachta Yamim, il ne s'agit pas dans ce monde, il s'agit dans l'autre monde. Si la Bnei Shavuya, il aurait bien compris Varachta Yamim dans l'autre monde, il n'aurait pas posé ces questions. C'est pour ça qu'il faut bien mettre dans la tête la Ika récompense d'Akadosh Baruch Hu dans l'autre monde. Des fois, Akadosh Baruch Hu il donne des fruits dans ce monde. Et le Dorim Shadam Ochel Perotem Bo'olamazeh. On peut avoir des fois des fruits, il y a des mitzvot qui ont des fruits dans ce monde-là. On peut avoir un bon lamaba aussi, un olamazé aussi, et la capitale dans l'autre monde. Mais ce n'est pas obligé d'être comme ça. Ça peut être dans l'autre monde. Sache que matin sera je dis qu'il de la vôtre. Donc ne te laisse pas embrouiller, si reste shalom, tu ne vois pas la réalisation de ce char dans ce monde. Ça viendra, la titre de la vôtre, ça veut dire dans l'olamaba, du ratriété miti. Shavua tov et à demain, Bezrat Hashem.